Ça ne vous aura pas échappé, si vous avez bien écouté les infos, vous savez qu'ils se sont enfin serré la main, on parle de Vladimir Poutine bien sûr et de Kim Jong-un. Et donc hier, le leader coréen est arrivé en Russie, le leader nord-coréen bien sûr, pour y rencontrer Vladimir Poutine à Vladivostok. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre et quel est l'historique entre les deux pays? Ce sont deux sujets auxquels Gérard Vespierre a répondu, il est géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté et il a répondu. Répondu tout cela à votre micro, mon cher Blaise.
Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Kim Jong-un est arrivé aujourd'hui en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Le dirigeant nord-coréen était parti dimanche soir de Pyongyang. Il a fait le voyage en train. Alors pour commencer, Gérard Vespierre, il est important de rappeler les liens historiques entre ces deux pays, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Ben, il remonte à la Deuxième Guerre mondiale, au plus exactement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la Corée, qui avait été envahie par l'armée japonaise, eh bien, a dû être désarmée. Donc, États-Unis et URSS de l'époque se sont mis d'accord finalement pour se partager le travail du désarmement, d'où le partage du pays et la mainmise. Donc, depuis 1945, de la Russie URSS sur la partie nord du pays, sur la Corée du Nord.
Avec cette explication, peut-on penser que la Corée du Nord aurait du mal ou n'existerait carrément pas sans la Russie et de surcroît la Chine ?
Écoutez, je suis effectivement tout à fait enclin à penser cela, et si je le pense, c'est que en termes de données, de quoi disposons-nous ? Eh bien, nous savons que la Chine est le premier fournisseur de la Corée du Nord. Nous savons que la Chine est le premier client de la Corée du Nord. Nous savons que la Russie utilise une main-d'œuvre nord-coréenne très importante, 50, 80 000, 100 000 travailleurs nord-coréens qui sont donc payés à des salaires réduits et qui sont payés collectivement à un organisme, bien sûr, se situant en Corée du Nord. Donc, voyez-vous, les fils entre les trois pays sont vraiment très, très tendus et donc la Corée du Nord est vraiment effectivement, d'un point de vue frontalier et économique, cernée et entre les mains de ces deux puissances.
Venons-en maintenant à la visite, à la rencontre entre les deux hommes d'État. Qu'attendre de cette visite, Gérard Vespierre ?
Écoutez, je pense que c'est avant tout aussi une opération de communication de la part de la Russie qui donc se voit moins isolée sur la scène internationale, parce qu'il faut dire que la Corée du Nord a un certain retentissement quasi permanent, quasi mensuel par ses essais de missiles, par ses opérations militaires diverses. Donc voilà, il y a une visibilité de la Corée du Nord d'un point de vue communication qui n'a rien à voir avec ses 25 millions d'habitants par rapport aux 7 à 8 milliards d'habitants de notre planète. Donc, il est bien évident que la Corée du Nord a quelque chose à dire, a quelque chose à faire. Et sur le plan matériel, eh bien, la Russie attend éventuellement, effectivement, des livraisons complémentaires d'armement.
Nous allons parler du matériel et de l'armement juste après, mais Gérard Vespierre, qu'a vraiment à apporter la Corée du Nord à la Russie en ces temps de guerre ?
Écoutez, ça peut être des choses tout à fait diverses. Ça peut être de l'équipement pour les soldats, donc du matériel militaire, comme l'on dit, non létal. Ça peut être de l'armement très très léger. Ça peut être donc a priori des munitions, parce que c'est cela qui s'use, n'est-ce pas ? C'est cela qu'on utilise. Donc les munitions peuvent être les bienvenues et donc si on continue la liste, eh bien à ce moment-là, on voit effectivement des armes légères. Surtout, je ne vois pas des armes lourdes venant d'aussi loin. Et, il faut aussi que ça soit facile à expédier et facile à transporter.
Ce matériel dont on parle, avec ce matériel, la Russie est-elle vraiment capable de reprendre la main sur cette guerre avec ce matériel nord-coréen ?
Je ne crois pas. Je crois que c'est une aide complémentaire, c'est une aide en termes d'approvisionnement, de disponibilité, mais ça ne change rien sur le plan qualitatif et quantitatif sur le front, n'est-ce pas ? Ça ne va pas changer le nombre de chars, ça ne va pas changer le nombre de soldats russes. Donc, cela donne éventuellement, si c'était mis en place, parce que les États-Unis vont certainement et d'autres puissances surveiller ces mouvements de transport. Si cela était mis en place, ça n'aurait pas de conséquences directes et significatives sur le front. C'est avant tout un essai donc de communication internationale et d'avoir effectivement du consommable militaire, des munitions.
Vu d'Europe, nous voyons des images de défilés militaires impressionnants de la part de la Corée du Nord, mais leur puissance militaire est-elle aussi impressionnante qu'elle veut le faire paraître ?
Mais écoutez, ces missiles effectivement existent, ils sont le fruit d'investissements très consistants de la part de la Corée du Nord, mais il ne faut pas sous-estimer l'apport aussi bien russe et chinois dans l'histoire de la constitution de cet arsenal nord-coréen, car il est important pour aussi bien l'URSS en son temps, la Russie maintenant, que la Chine également, que la Corée ne se réunifie pas sous l'initiative de la Corée du Sud, et que ce pays, s'il doit rester et divisé, eh bien il le soit avec un Nord qui ne puisse pas être envahi. La seule solution de son non-invasion, eh bien, constitue ou nécessite, plus exactement, nécessite que la Corée du Nord dispose d'un arsenal nucléaire. Le schéma, si vous voulez, géostratégique, pas de réunification, surtout pas à l'initiative du Sud. À ce moment-là, on verrait une Corée réunifiée de 75 millions d'habitants avec la dynamique industrielle et technologique de la Corée du Sud, avec le pouvoir politique démocratique de la Corée du Sud. Pour la Chine et la Russie, il n'en est absolument pas question. Il n'est pas question que des troupes américaines se rapprochent de la frontière chinoise.
Est-ce un affront pour Vladimir Poutine d'en arriver à se tourner vers la Corée du Nord pour essayer de garder la tête haute dans cette guerre ? Pensait-il vraiment en arriver là ?
Je ne crois pas qu'il considère le qualitatif. Je crois qu'il considère le fait qu'il ait la possibilité d'avoir un pays supplémentaire à ses côtés. Voilà, donc cela fait une unité supplémentaire de pays l'aidant dans son opération militaire spéciale qui est une guerre réelle et longue. Et donc les conséquences et les avantages qu'il peut en tirer en termes de fourniture au moins de munitions et de petits matériels militaires. Donc pour lui, c'est un allié de plus officiel et éventuellement de l'armement à venir. Donc il n'y a que bénéfice, il n'y a pas de jugement de valeur.
La ministre française des Affaires étrangères a parlé d'un signe d'isolement en évoquant cette rencontre. Vous avez parlé d'un allié en plus. On assiste de plus en plus à la création de deux blocs.
Deux blocs, ce sont des éléments de circonstance, n'est-ce pas ? Et la géopolitique mondiale s'oriente de plus en plus vers des stratégies de court terme évolutives. Si on regarde du côté de la Turquie, n'est-ce pas, qui a évolué considérablement de 2015 à 2020 dans ses options géopolitiques et qui, depuis l'élection d'Erdogan, évolue à nouveau, voyez-vous, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de mobilité géopolitique au niveau planétaire. Donc, il n'y a pas vraiment de bloc. Il y a des dessins deux-S-E-I-N qui se mettent en place autour potentiellement des BRICS, mais sur le plan économique, les BRICS ne sont pas Chine, mis à part des États vraiment de première capacité industrielle et financière et économique. Donc, on a une fluidité géopolitique mondiale, planétaire, grandissante, mais je pense qu'il faut être très prudent vis-à-vis de ce concept de bloc qui reposait avant tout sur des conceptions idéologiques, elles très structurées, donc qui conduisaient à ces constitutions de bloc. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment cette assise idéologique, donc on est plus dans la fluidité.
Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Ben écoutez, merci de votre appel.